RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Dimanche prochain, comme chaque dernier dimanche de septembre depuis 1914, ce sera la journée mondiale du migrant et du réfugié, célébrée par l'Église catholique partout dans le monde. Cette année, elle a pour thème « Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés ». C'est aussi le thème de « Je pense donc j'agis » ce matin. Vous entendrez dans la seconde partie de l'émission des associations qui essayent de favoriser l'intégration à la fois professionnelle et sociale des personnes exilées. Mais tout de suite, on réfléchit à ce que peut vouloir dire de construire l'avenir ensemble, autochtones et migrants, réunis dans un même pays, en l'occurrence la France. Venez réfléchir avec nous. En quoi, à votre avis, la présence de personnes migrantes et réfugiées peut-elle être une chance pour construire l'avenir? Qu'est-ce que la présence de ces personnes change à notre vie en commun? Qu'est-ce que ces personnes ont à apporter peut-être de particulier? Et si vous êtes vous-même migrant ou réfugié, dites-nous comment vous voulez contribuer à la construction de l'avenir. Enfin, qu'est-ce qui peut permettre que chacun trouve sa place dans cette construction et qu'est-ce que, au contraire, peut-être est un frein? On vous attend au 04 72 38 20 23. Vos messages par mail également à l'adresse direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Bonjour Anne-Claire Léo.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes la rédactrice en chef écologie RCF et avec vous ce matin, on se demande donc comment, avec les personnes exilées qui vivent en France, on peut construire l'avenir de notre pays. Et Dieu sait que cet avenir est incertain.
Eh oui Melchior, vous avez raison. Donc nous sommes sans doute à un moment où plus que jamais, nous avons besoin de la diversité des contributions pour bâtir un avenir vivable. Plus nous aurons d'expériences diverses à mettre en commun, plus notre intelligence collective sera riche et plus nous serons capables de répondre aux défis du temps. Et pourtant, tout le monde ne partage pas cette conviction que la présence des exilés dans notre pays est une chance. Nombre de nos concitoyens ont peur de cette présence, peur qu'elle les prive de quelque chose, peur que le gâteau de la richesse à partager ne soit pas assez gros pour tout le monde, peur que la différence empêche de se comprendre, peur d'être envahi. Alors comment à la fois entendre ces peurs et contribuer à ce qu'elles puissent se convertir petit à petit en conviction que l'accueil est possible et qu'il peut même être un facteur positif pour tous et toutes? C'est ce que nous allons explorer ensemble ce matin.
Et on va en discuter, Anne, dans cette première partie avec nos invités.
Oui, alors ils sont trois. Bonjour d'abord à vous, Marcela Villelobos-Cid.
Bonjour Anne, bonjour Melchior.
Bonjour.
Alors, vous travaillez au service Mission et Migration de l'Église catholique en France. Vous êtes coordinatrice du réseau pastoral des migrants et responsable de l'observatoire sociétal de ce service, qui est un service de la Conférence des évêques de France. Et vous avez vous-même une histoire personnelle de migration. Peut-être que déjà, à vos premiers mots, nos auditeurs ont entendu votre bel accent. Vous venez du Mexique et puis vous avez vécu aussi plusieurs années au Canada, c'est ça ?
C'est tout à fait. Ça fait 19 ans que je suis partie du Mexique, et donc ça fait 12 ans que j'habite en France.
Voilà, alors on a une pensée hein, particulière pour les Mexicains qui hier ont vécu un séisme. Heureusement, les dégâts sont pas trop importants. Je sais pas quels échos vous avez, vous, de votre pays.
Les mêmes. En fait, à chaque année, c'est une date importante. Donc on se souvient du séisme de 1985 qui avait produit des dégâts assez importants. Celui de 2017 aussi. Et donc, il est vrai que ce séisme a touché la ville de Mexico, mais il ne faut pas oublier toutes les autres villes qu'on était touchées. Sans dégâts trop graves pour le moment.
Bon, on pense bien aux Mexicains. Et puis avec nous aussi Isabelle Richard, bonjour.
Bonjour.
Alors bonjour même si la journée mondiale du migrant et du réfugié est une initiative de l'Église catholique, on s'est dit qu'il serait intéressant de vous inviter ce matin en tant que présidente de l'entraide protestante, la fédération d'entraide protestante qui est très active sur l'accueil des personnes exilées en France et avec beaucoup de liens entre catholiques et protestants pour travailler ensemble sur ces questions. Alors vous êtes avec nous en duplex de Nantes où vous vivez et on remercie au passage l'équipe de Radio Fidélité qui assure la liaison. Et puis notre troisième intervenant de ce matin vient tout juste de s'installer en studio. Il était resté un petit peu coincé dans le métro lyonnais. Bonjour Emmanuel Abikounze.
Bonjour.
Alors, il faut vous mettre bien devant le micro, un petit peu plus près. Voilà, le temps de vous installer, on vous attrape au vol. Merci d'être avec nous ce matin et d'avoir affronté... Je crois que vous êtes resté coincé dans le métro, c'est ça ?
Oui, il y avait un petit souci.
Voilà, donc
que c'était 10 minutes comme ça.
Bravo de nous avoir rejoint. C'était moins long que le trajet depuis votre pays d'origine, qui est le Rwanda. Vous êtes demandeur d'asile en France. Vous vivez à Lyon où vous êtes étudiant et vous faites partie de l'association JRS. JRS, c'est le service jésuite des réfugiés. Vous êtes venu avec votre guitare que Melchior vient de poser dans un coin. Et dans un instant, on pourra bénéficier de ce talent que vous avez de jouer de la guitare. Et de chanter. Vous chanterez dans la langue dans votre langue maternelle, qui est le Kinyarwanda, c'est ça?
Ah oui, tout à fait, tout à fait.
On a hâte.
Merci à tous les trois d'être avec nous dans cette émission. On commence, hein, Anne, vous le savez, c'est notre habitude, par la chronique. Tout est lié et on accueille ce matin Stécie Algrin.
Bonjour Stécie.
Anne, bonjour Melchior.
Alors, une question vertigineuse pour commencer cette chronique.
Oui, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que vous devriez dire à vos enfants? À l'heure où les phrases comme « travaille bien à l'école, t'auras un bon métier » sonnent étonnamment creuses, on conseille quoi à un gosse de 12 ans en 2022? Bon, du haut de mes 25 ans, je me réveille pas de bon matin avec ce genre de questionnement. Mais Virginie Despentes, avec son délicat et non moins saisissant de réalisme « cher connard », se l'est posé pour moi.
Alors, en quels termes se pose-t-elle cette question?
Alors, c'est plutôt Oscar, l'un des protagonistes engagés dans une relation épistolaire avec Rebecca, qui nous dit ceci. Qu'est-ce que je peux dire à ma fille? Soigne tes selfies, t'auras des followers. Ne réponds pas à tes mails après 22 heures. Apprends à bien faire tes valises. Tu ne sais pas de combien de temps tu disposeras le jour où il faudra évacuer la ville et laisser ta maison derrière toi, pour toujours. Je me suis questionnée sur l'avenir auquel nous, enfin surtout vous, les actuels parents, devons préparer les bambins de notre société. Quitter son foyer, ses lieux si familiers et les souvenirs que l'on y a créés. Oscar se dit qu'un jour, eux aussi, devront partir, comme ça, dans un pays inconnu, devenir les réfugiés du 21e siècle et faire leurs valises.
Et pourquoi devraient-ils partir? Qu'est-ce qui les y pousserait?
Qui sait? Les guerres, les famines, les pandémies. La vie a clairement plus d'imagination que nous et je pense que les années précédentes nous l'ont bien montré. Mais il y a une raison que nous connaissons d'ores et déjà, la crise climatique. Tiens, si comme Mina, une Inupiaq du petit village de Chichmaref en Alaska, vous observiez les vagues détruire inexorablement votre maison, qu'est-ce que vous mettriez dans votre valise? Si comme oncle Manan et sa femme, habitants du delta du Bangladesh, vous viviez perchés sur une digue attaquée de toutes parts par les eaux saumâtres, vous emporteriez quoi? Pour nous, habitants de l'Hexagone, répondre à cette question, ça semble pas tellement urgent. Maigre réconfort lorsque l'on sait que la Banque mondiale avertit que le changement climatique constitue un facteur de migration de plus en plus puissant. D'ici à 2050, le GIEC alerte qu'ils seront des centaines de millions à être arrachés à leurs terres par la désertification et la montée des eaux. Ouais. D'ici à 2050, 216 millions de personnes porteront la lourde étiquette de réfugiés climatiques. 10 fois plus que le nombre total de réfugiés en 2021. Que diront ces hommes et ces femmes aux générations déracinées? Sans billets, sans cabine et sans valise de cuir jaune, d'où tireront-ils leur sécurité, si ce n'est de notre solidarité? Je vous remercie.
Merci à vous, Stécie Algrin, pour cette chronique. Tout est lié à réentendre sur rcf.fr. La semaine prochaine, c'est Féris Barkat qu'on retrouvera à votre place. Voilà encore une fois, Anne, qui nous donne matière pour cette émission.
Oui, alors là, on est plutôt sur les causes des migrations que sur ce qui va nous occuper sur la suite de l'émission. Mais je voudrais vous demander, Marcela Villalobos, comment vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre de ce que nous a dit Stécie?
Eh bien, en entendant la chronique, je ne peux pas m'empêcher de penser à la réalité des mineurs non accompagnés qui arrivent seuls, donc qui sont des enfants avant d'être des étrangers, qui ont droit à être protégés, à avoir à construire un bel avenir. Et quand entendait ce que l'on, qu'est-ce qu'on va apporter à nos valises, je me disais aussi que c'est tout l'enseignement de trier entre ce qui est indispensable et nécessaire et laisser la place pour remplir les cœurs et la mémoire de nouveaux souvenirs. Ça, c'est la réalité des migrations aussi. Donc, les deuils de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait, et l'avenir et l'espérance de ce que nous allons nous transformer et advenir.
Ça, c'est une question qu'on se pose même quand, comme vous, on a fait le choix, on n'a pas été obligé de partir.
Bien sûr. Moi, j'ai choisi de venir en France pour un projet, pour des différents projets. Mais évidemment, on ne peut pas avoir la tête tout le temps au Mexique ou au Canada, parce que sinon, on ne laisse pas la place à ce qu'on va construire en France. Mais c'est un choix. Et c'est aussi faire face à la différence, à une nouvelle langue, à des codes culturels. C'est apprendre à connaître ces nouveaux pays qui deviendront les nôtres. Et si l'on apprend à les connaître, ça ne se passe pas par les papiers, ça se passe par les relations importantes que l'on tisse, par les liens signifiants avec les gens de ces pays que l'on va tisser.
Isabelle Richard, vous, qu'est-ce qui a accroché votre oreille dans la chronique de Stécie Algrin ?
Alors oui, j'étais touchée par cet appel à considérer l'essentiel et puis aussi à se dire que dans toute existence, il y a des moments de rupture, des moments de deuil, des moments de renoncement et qu'on est appelé à se questionner dans ces moments-là pour savoir qu'est-ce qui va nous relever, qu'est-ce qui va nous permettre de nous remettre debout. Je crois qu'on est tous traversés par cela à un moment ou l'autre, mais que les personnes qui sont obligées de tout lâcher, et souvent du jour au lendemain, le vivent de façon particulièrement brutale et radicale. Alors la vie, c'est aussi, je pense, fondamentalement une histoire de relations, de rencontres et d'espérance. Et c'est à travers ces moments-là, ces ouvertures, ces portes qui sont cette lumière qui vient et dans laquelle nous croyons que la vie continue à être possible. Et donc, voilà. Et puis alors, par rapport aux réfugiés climatiques, oui, là, on est face à une réalité qui est, je pense, incontestable, qui nous saute aux yeux encore plus, mois après mois, hein, notamment après l'été que nous venons de vivre. Mais face aussi à un grand autisme de la part des politiques, d'une façon générale, et des personnes qui anticipent et prévoient la législation d'aujourd'hui et de demain. Et là, je crois qu'on a vraiment à crier fort et à être nous-mêmes des éclaireurs. Parce que on vit, nous, au quotidien, avec nos partenaires dont on va parler ce matin, l'accueil des personnes qui frappent déjà aujourd'hui à notre porte. Et on sait combien c'est difficile, mais la vision de ce qui nous attend demain est encore bien, bien plus inquiétante.
On y reviendra en fin d'émission au projet de loi Asile et Immigration qui a été annoncé par le président Macron pour début 2023. Vous nous direz comment vous envisagez cela et qu'est-ce que vous en attendez. Emmanuel, vous qui êtes demandeur d'asile, la période de la demande d'asile, c'est le moment où on dépose sa demande d'asile, donc on attend la réponse ensuite de la France, et donc on attend des papiers en fait, c'est une attente importante, c'est ce qui va conditionner votre avenir en France. Mais quand Marcella disait tout à l'heure que construire l'avenir, c'est pas seulement une histoire de papier, c'est aussi une histoire de relations, est-ce que vous vous sentez déjà dès maintenant, dans cette phase de la demande d'asile, en train de construire l'avenir en France ?
Oui, je pense oui, mais si on va parler l'histoire des papiers, c'est un peu compliqué. Ça prend, je dis c'est un peu compliqué parce que ça prend longtemps pour. Par exemple, moi je suis en France depuis le 7 décembre 2019. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore les papiers. Ça veut dire que c'est pas simplement de laisser croiser les bras en disant j'attends les papiers, j'attends la décision. On cherche, moi personnellement, j'ai cherché comment je peux intégrer des associations, par exemple les JRS, il y a une autre association Ecosila, Secours Catholique et Terre d'Ancrage. Comme ça, au moins on a la chance de discuter avec les autres et de partager avec les Français ou les Françaises. Normalement, ils sont gentils, ils sont vraiment... Bon, ils n'ont pas le temps d'expliquer, mais ils cherchent le temps pour expliquer si là où on est coincé, ils essaient de s'expliquer des choses. J'ai intégré l'université en Lyon-Deux. C'est Secours Catholique qui m'a aidé. Ça veut dire que vraiment le temps d'attendre des papiers aussi, c'est l'occasion de faire d'autres choses. Moi, au début, j'avais pas l'habitude de parler le français, c'était compliqué pour moi.
Oui, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, ça. On pense qu'au Rwanda, en France, je pense que les Français croient qu'au Rwanda, on parle français, mais en fait, votre génération, la langue officielle, c'est l'anglais.
Ah oui, ça a été changé entre 2008 et 2009. Ava, c'était le français, mais même si on dit c'était le français, mais c'était le français pour déjà qui ont la chance d'arriver à faire des études. Normalement, la langue maternelle, c'est parce qu'au Rwanda, c'est pas tout le monde qui fait des études comme ici en France. Et là, on dit c'est ouvert pour tout le monde. Parfois, si on n'est pas capable d'y arriver, si l'école il est
trop loin,
dans 30 km, on va rester derrière les vaches comme ça.
On parle
Kinyarwanda, c'est ça. Après, si on arrive à faire des études, on peut apprendre d'autres langues. Mais moi, j'ai appris l'anglais parce que c'était la langue qu'on maîtrise à l'école, à la fac, dans l'administration. Après, le français, c'était nouveau pour moi.
Donc, quand vous êtes arrivé en France en décembre 2019, vous ne parliez pas du tout français ?
Du tout.
C'est impressionnant. Hein.
Bravo.
J'ai essayé avec le forum réfugié pour parler en anglais. Je sais pas, même si je disais que j'ai parlé l'anglais, mais c'était pas l'accent britannique, c'était l'accent, on dit, africaine.
C'était du pidgin, comme on dit.
j'ai essayé de m'exprimer, mais j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que les autorités disent. Après, moi, aussi, il n'arrivait pas à me comprendre, c'était trop compliqué. Moi, j'ai demandé comment je peux apprendre le français. Ils ont dit, il y a le secours catholique. Après, j'avais des inquiétudes en disant, je vais payer les études pour faire le français, c'est compliqué. Ils ont dit non, c'est gratuit. Après, je me disais là, je vais y arriver parce que si c'est gratuit, j'ai le temps d'apprendre.
Je vous propose, Emmanuel, d'aller vous installer là où est placé le micro pour prendre votre voix et la guitare. Et le temps que vous alliez vous installer, on va continuer à échanger avec Isabelle et Marcella. Dans ce que dit Emmanuel, Isabelle, on entend déjà un peu toute cette histoire de relation. Il a parlé de plusieurs associations, il a dit comment l'une l'avait aidé à s'inscrire à la fac, à apprendre le français. Enfin, à la Fédération d'entraide protestante, c'est ça que vous faites ?
Alors oui, absolument. Enfin, la Fédération d'entraide protestante rassemble plus de 380 associations ou fondations engagées dans le monde social, médico-social ou sanitaire. Et alors, on a effectivement beaucoup de nos membres, dont certains sont très connus, assez emblématiques, hein, comme la CIMAD, par exemple, qui fait partie des membres de la FEP, qui, vous le savez, est particulièrement qualifiée historiquement pour aider les personnes réfugiées dans l'accès aux droits. Et on a aussi l'Armée du Salut, la Fondation de l'Armée du Salut, qui fait un très gros travail d'accueil des personnes en situation de précarité et dont une très grande majorité en France, malheureusement, hein, sont des personnes étrangères. Nous avons aussi localement, dans toutes les régions, des membres de tailles diverses, mais par exemple à Paris, le CASP, hein, le Centre d'Action Sociale Protestant, qui a été nommé par la ville de Paris pour être la plateforme d'accueil des personnes fuyant la guerre d'Ukraine. Enfin, c'est un exemple, mais on en a dans beaucoup d'autres régions. Donc nos membres sont eux-mêmes sur le terrain quotidiennement pour accueillir les personnes migrantes, les exilés. Et puis nous-mêmes, au niveau fédératif, hein, puisque le siège est à Paris, nous avons une équipe d'une vingtaine de salariés, nous avons des actions au niveau national pour accueillir les personnes étrangères. Je citerai un exemple, parce que je ne veux pas prendre trop de temps, mais c'est celle des couloirs humanitaires qui ont été lancés il y a maintenant plus de 5 ans. Les couloirs humanitaires, c'est une action très particulière qui consiste à aller chercher des personnes dans les camps de réfugiés du Liban, des personnes en situation de grande vulnérabilité, qui sont malades, qui sont en situation de handicap, et à obtenir, grâce à une convention avec le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur, nous les faisons venir en France. Et nous les installons dans des régions avec l'appui de nos membres, dans de l'accueil citoyen, avec des collectifs qui s'organisent pour les aider petit à petit à s'intégrer dans la durée et ensuite leur permettre d'avoir une vie autonome. Voilà un exemple de ce que fait la FEP, hein, Fédération d'entraide protestante.
On pourrait passer des heures à raconter tout ce qui se passe un peu partout sur les territoires. Marcella Villalobos-Cid, c'est un peu la même chose côté catholique, alors avec plus de monde, puisqu'il y a beaucoup plus de catholiques en France, mais c'est aussi le même type d'exemple que vous pourriez donner.
De la même manière, nous avons un réseau des délégués de la pastorale des migrants. Nous sommes présents dans 90 diocèses de France et ces délégués vont assurer une mission de communion, une mission pastorale, une mission sociale auprès des personnes migrantes. Et c'est semblable à ce qui fait la Fédération de l'entraide protestante ou d'autres organismes comme les Secours catholiques ou la CIMAD. Ce sont des actions fraternelles, l'apprentissage de la langue, l'accompagnement juridique ou administratif, l'accueil des migrants chez le particulier, ce que nous appelons l'hébergement citoyen, la présence aux frontières, la sensibilisation dans les écoles ou les grands publics. Et donc, tous nos délégués font des actions qui vont permettre à nos concitoyens de mieux comprendre les enjeux liés à la migration et à la réalité que vivent les personnes migrantes. Et donc, ce matin aussi, je suis très contente d'entendre Isabelle parce que c'est un rappel des actions interassociatives qu'elles ont fait depuis plusieurs années. Donc, on travaille de manière très étroite. La Fédération de l'entraide protestante, les Secours catholiques, les services jésuites des réfugiés, nous-mêmes, les services nationaux Mission et Migration ou les CCFD Terre solidaire, puisque nous sommes dans une époque où nous avons besoin de travailler ensemble et pas de manière isolée. Donc, nos actions auront plus de portée dans tout le territoire.
Vous êtes sur RCF, il est 9h24. Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés, c'est le thème de la Journée mondiale du migrant et du réfugié qui sera célébrée dimanche prochain par l'Église catholique partout dans le monde. C'est aussi le thème de notre émission ce matin. Venez participer avec vos témoignages. En quoi, à votre avis, la présence des personnes migrantes et réfugiées peut-elle être une chance pour construire l'avenir? Qu'est-ce que leur présence change à notre vie en commun? On vous attend au 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23.
Et on va faire l'expérience que la présence de personnes migrantes ou réfugiées, c'est une chance parce que ça apporte de la joie à travers la musique. C'est ce dont on va avoir la preuve avec Emmanuel. Je propose, Emmanuel, qu'on commence par vous écouter, puis après vous nous expliquerez peut-être en quelques mots, puisqu'on ne va pas comprendre vos mots, puisque vous allez chanter en Kinyarwanda. On vous écoute.
Ragu shaka shaka ngagu shachira ha nuho se nakura kashavura kakoru konshoboye kungera jeze kukwi va namo tinwa gagari kwa chombe dirang kundurukundo dashira Tinzo zizanje manwani juro
Bravo et merci.
Merci beaucoup. Celui-là, c'est une chanson, je peux dire que c'est traditionnaire parce qu'il y a longtemps qu'il a été chanté avec un chanteur qui s'appelle Fashao, Focast. Fashao, c'est le nom à Kinyarwanda, c'est un peu compliqué. C'est la chanson qu'on chante souvent s'il y a la fête de mariage. Après, le chanteur il disait je cherche. Si je ne peux pas tout traduire, il disait « Je cherche partout pour te chercher, mais je n'arrivais pas à te voir. » Mais Arafé, il disait « Prince, j'ai la joie, j'ai la chance parce que je te vois devant moi. » Si j'essaie vraiment de traduire, en gros, c'est ça. Normalement, je ne vais pas tout traduire parce qu'il y a des mots que je n'arrivais pas à trouver dans le mot en français exact et tout de suite, c'est ça.
Et puis ce serait trop long, et en fait, c'est une chanson de Marianne, une chanson d'amour, ça c'est quelque chose d'universel en fait, même si, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un mariage en France, pour l'instant, peut-être pas encore.
Pas encore.
C'est sans doute assez différent, mais en même temps, c'est quelque chose qui se vit partout dans le monde. Est-ce que vous avez le sentiment, Emmanuel, depuis que vous êtes arrivé, que la culture que vous apportez, elle enrichit les Français et elle contribue à construire l'avenir en France.
Je j'ai pas la réponse exacte. Parfois, dans ma tête, je me disais j'ai besoin de la France pour être protégé. Je sais pas si la France elle a besoin de moi pour ça c'est une question que je peux pas vraiment répondre d'une manière exacte. Après, souvent, par exemple, là où j'ai passé dans des familles d'accueil, si je partage avec les enfants, c'était un Saint-Génie Laval, là où il y a le fils d'Isabelle, on a chanté la chanson, c'était une bêtise pour les enfants. Après, il a tout mémorisé, on a chanté, on a passé des bons moments avec la famille. Puis souvent, ils m'ont invité pour chanter si ça. Bon, je sais pas si ça peut construire quelque chose qui... Après, moi, ce qui est très important, c'est qu'on a passé des bons moments. Pour moi, c'était ça.
C'est les relations, quoi.
C'est ça. Ouais.
Un très beau moment de radio qu'on vient de vivre en direct sur RCF, dont je pense donc j'agis. On va marquer une petite pause. On attend vos témoignages, vos réactions au 04 72 38 20 23. Vos messages par mail également à l'adresse direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand et Anne Kerléo.
Et toujours avec nos trois invités qui sont avec nous dans cette première partie, Emmanuel Abikounze, que vous venez d'entendre en live avec sa guitare, Marcella Villalobosside, également du service Mission Immigration de l'Église catholique de France, et Isabelle Richard, qui nous accompagne également en tant que présidente de l'entraide protestante. Et puis je vous rappelle ce thème, le thème de la Journée mondiale du migrant et du réfugié, qui sera célébrée dimanche prochain, construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés.
Bah justement, je voudrais vous demander, Marcella et Isabelle. Emmanuel nous dit, je sais pas moi, je peux pas trop répondre à la question, est-ce que en jouant de la guitare et en chantant comme ça, je contribue à construire l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Marcella?
Alors, évidemment, moi, je crois que oui, que la présence des personnes venues d'ailleurs, d'origine étrangère, enrichissent non seulement cette société, enrichissent notre monde, puisqu'elle apporte de la richesse culturelle, de la richesse économique, de la richesse sociale, et il ne faut pas oublier qu'on se construit grâce à l'autre. Donc l'autre qui vient d'ailleurs révèle quelque chose de très profond de nous. Donc pour moi, c'est évident que cette construction d'un avenir qui nous est commun passe par l'accueil des personnes qui viennent d'ailleurs. Comme ça s'est fait déjà depuis plusieurs années en France ou ailleurs. Donc ces pays ont une longue tradition d'hospitalité qu'il ne faut pas oublier.
Et est-ce que vous, qui avez vécu aussi ce parcours d'exil, même s'il était choisi, vous comprenez quand Emmanuel dit, bah moi je sais pas en fait, je peux pas dire si. Est-ce que soi-même on a ce sentiment-là, ou est-ce qu'on peut avoir des doutes, se dire comme Emmanuel disait, moi j'ai besoin de l'aide de la France. Alors vous c'était un peu différent, mais est-ce que la France a besoin de moi en fait?
Alors moi je dirais que je n'ai pas vécu un parcours d'exil, puisque ça serait extrêmement prétentieux de rappeler qu'il y a des gens qui sont forcés à quitter leur pays et qu'on a une obligation en termes de droits de les accueillir. Et donc il y a d'autres personnes qui, pour plusieurs raisons, choisissent d'aller s'installer dans un autre pays, que ce soit comme étudiant ou avec un visa travail ou avec un visa de compétences, etc. Donc ce ne sont pas les mêmes parcours, donc il faut pas oublier ça. Pour ce qui me concerne, oui, je pense, quand on vient d'un autre pays, d'une autre culture, d'une autre manière de penser, on enrichit les pays d'accueil, mais on se laisse enrichir aussi par les pays qui va nous accueillir. C'est une relation de réciprocité, c'est une relation de va-et-vient. Donc autant nous, en tant que personnes d'origine étrangère, on va faire un effort pour s'intégrer, mais la société d'accueil aussi doit faire un effort pour accueillir les personnes qui viennent d'ailleurs. Et je répète encore une fois, que ce soit la France ou d'autres pays, ce sont des pays qui se sont construits grâce à la migration. Si l'on pense à la langue française, combien de mots sont inclus dans cette belle langue qui sont d'autres origines. Donc il faut pas oublier ça. Nous faisons face aussi à une réalité qui est que nos sociétés vont devenir de plus en plus multiculturelles, de plus en plus multireligieuses. Donc on a un grand défi de s'intéresser au défi de l'interculturalité et du dialogue interreligieux. Donc oui, évidemment, les personnes d'ailleurs, j'y crois fortement, nous apportons quelque chose de très beau à ces pays, mais nous recevons aussi quelque chose de très beau, et notre identité change et notre société change. Et on le fait ensemble, mais je reviens à cette phrase, c'est une relation de réciprocité horizontale.
Isabelle Richard, même question qu'à Marcella à l'instant. Est-ce que cette relation de réciprocité, elle peut se jouer par la musique, par le chant, comme on vient de le vivre avec Emmanuel?
Oui, alors absolument. Je pense que la culture est un média particulièrement riche et de tout temps. Nous le savons, on a grandi, on a découvert, il y a eu des explorations, il y a eu des découvertes qui venaient de la rencontre de l'autre, de ces voyages, de ces déplacements qui permettaient de s'enrichir, d'enrichir les civilisations, d'enrichir le monde culturel, mais bien au-delà de la culture. Moi, je suis intimement convaincue que on se construit, comme l'a dit Marcella, hein, on se construit dans la relation, on se construit, on a besoin de l'autre. Alors vous savez, les protestants, on est toujours un peu raccrochés à la Bible, et j'aurais envie de rappeler ça aussi, que dans l'histoire de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, la référence à l'étranger et à ce qu'il représente pour chacun, que ce soit pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament ou pour ce que croise Jésus dans le Nouveau Testament, est absolument omniprésente. Hein. Dans l'Ancien Testament, on appelle en permanence ce peuple d'Israël à accueillir, à être vigilant, à se rappeler que lui-même a été étranger en Égypte et qu'il doit toujours ouvrir la porte et considérer l'étranger comme lui-même. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, Jésus le rappelle régulièrement. Il va même dire qu'il a été lui-même étranger et que chaque fois qu'on a accueilli un étranger chez nous, qu'on l'a nourri, qu'on l'a hébergé, c'est à lui-même qu'on l'a fait. Donc cette référence à l'étranger, elle est omniprésente parce qu'elle nous rappelle que nous nous construisons dans la relation à l'autre, notre frère, et puis le tout autre qui est Dieu. Et ce n'est que par ce biais-là que nous pouvons nous réaliser nous-mêmes, hein, et puis nous construire. Donc oui, c'est fondamental de s'appuyer, de reconnaître, comme l'a dit très, très justement Marcella, que c'est une réciprocité permanente. Et d'ailleurs, le nom de notre fédération, la Fédération de l'entraide protestante, est une façon de le rappeler, car ce n'est jamais à sens unique. C'est toujours à double sens, une relation d'accompagnement, d'accueil ou d'aide.
Emmanuel, vous, au sein de JRS, vous avez, pendant 9 mois, ou peut-être un peu plus même, été accueilli dans le cadre du programme Welcome. Ça veut dire que vous avez été accueilli successivement par 9 familles ou communautés, c'est ça ?
Mmh, tout à fait.
Alors, qu'est-ce qui se passait dans cette relation-là ? Parce qu'à chaque fois, ça durait à peu près un mois ou un peu plus. À chaque fois, fallait faire ses valises, découvrir une autre famille ou une nouvelle communauté. Est-ce que c'est toujours facile d'entrer en relation avec les autres ? Enfin, est-ce que pour vous, c'était facile ?
Pour moi, au début, je me disais, je ne sais pas si ça va être facile pour moi, mais... C'est mieux au lieu de rester, vraiment, c'était, il faisait froid en dehors, c'était pas pratique.
Avant, vous avez vécu dans la rue?
Ouais, j'ai passé presque 3 semaines. Après, j'ai une association qui s'appelle Ouvre Porte qui m'a payé quelques jours dans une hôtel, c'était le vendredi jusqu'à mardi. Après, Madame Christine, je sais pas si c'est bien de...
Du Secours catholique, donc.
Du Secours catholique, de parler des prénoms comme ça.
Mais... Si, c'est bien, parce que ça montre que c'est des gens concrets qui...
Après, il m'a dit, on va chercher une solution, parce que je me disais, si ça va finir l'hôtel, comment je peux faire? Après, il m'a dit, on va chercher des familles d'accueil. Je me disais, bon, c'est pas facile de s'adapter, parce que c'est moi qui dois s'adapter à la famille. C'est pas la famille qui doit s'adapter à moi. Je me disais, c'est pas facile de s'adapter à 9 familles, mais je vais essayer, c'est mieux au lieu de rester en dehors. Après, c'est mon accompagnatrice, elle s'appelait Justine, il m'a dit, tu sais, t'inquiète pas. Toutes les familles qu'on a choisies sont gentilles. Oh, tu vas y arriver. Ah bon, je me disais, oui, c'est bien. J'ai commencé avec la communauté religieuse et c'est tranquille. Et ils nous diront, on joue une petite musique, on change. Après, il m'a dit, il s'appelle François, il m'a dit, moi, t'as quel âge? Je suis né en 1990. Il a dit, moi, je sais le Rwanda avant ta naissance. Ah, il a commencé à me raconter des choses même que je ne connais pas. Ça a commencé comme ça. Je suis arrivé chez Marc. Il y avait la chambre en haut, il y a des batteries, il y a des guitares, il y a des pianos, je me disais là, vraiment. C'est, pour moi, ça, c'était très bien.
C'est ça aussi, c'est découvrir que c'est des Français, mais vous avez des points communs aussi, la musique par exemple avec Marc.
Ah oui, c'était vraiment magnifique. Même si là où il n'y avait pas, par exemple, d'instruments de musique, on avait des bonnes choses à partager, les sorties, des balades, aller faire avec les bâtons, les canoës.
Canoës.
Des rames.
Ah oui, c'est ça. Vraiment, on a passé des bons moments ensemble. Vraiment, si on commence et on dit ça va être difficile, mais normalement, c'est facile. Je pense que JRS, il essaie de chercher des familles qui sont motivées d'accueillir. Aussi qui sont très gentils, j'ai pas eu vraiment des problèmes avec des familles. Même tout le temps, ils m'invitent, est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce qu'on peut passer un petit moment où...
Toujours maintenant.
Toujours maintenant.
Les liens restent. Et maintenant, vous vivez dans un foyer étudiant, c'est ça?
Oui, à Villeurbanne.
Je vous propose d'aller vous réinstaller pour... on va profiter, hein, puisque vous êtes là. Donc, on va vous réécouter une deuxième fois. Et le temps que vous vous installez, on continue d'échanger avec Marcella et Isabelle. Là, Emmanuel nous raconte des belles histoires de rencontres, de relations. Et en même temps, on sait bien qu'on a de nombreux concitoyens, chacun même peut-être dans nos familles, nos amis, pour qui l'arrivée de personnes venues de loin, c'est une peur. La peur, alors c'est parfois du fantasme, mais c'est des tas de peurs. Et donc, comment, face à ça, est-ce que vos associations qui sont impliquées dans l'accueil des personnes migrantes sont interpellées? Est-ce qu'on vous dit vous devriez pas faire ça? Et comment vous travaillez cette question-là de la peur face à l'arrivée de l'étranger, Marcela Villalobos-Cid?
Alors, je crois qu'il est normal d'avoir peur de l'inconnu, de quelqu'un que nous ne connaissons pas. Donc ça, c'est normal. Et c'est pour ça que c'est important d'aller à la rencontre de l'autre, de sortir de notre centre, de nos certitudes, de tout ce qui nous fait un peu être intoxiqués avec les médias, toutes les images, tout ce que les médias vont véhiculer par rapport à la migration, d'aller en périphérie, de nous déplacer et d'oser de prendre le pari de sortir de nos frontières mentales et affectives. La rencontre réelle avec des hommes et des femmes va nous permettre de voir que derrière tout ce que nous entendons, il y a ça, des hommes et des femmes comme nous. Plus nous passons du temps avec les gens, plus nous allons avoir que nous avons des choses en commun. Donc ça va aider aussi à défaire nos clichés, nos préjugés, nos certitudes, mais c'est vraiment avoir le courage d'aller à la rencontre de l'autre. Et cette culture de la rencontre, qui si est chère au pape François, mais c'est un appel à construire une société que ce soit de plus en plus hospitalière, fraternelle, sororale, une société où chaque personne puisse avoir une place digne. Donc ça demande de se déplacer, de rencontrer les autres sur son terrain aussi, d'avoir un cadre qui le permet. Donc je pense à toutes les actions qui sont portées par les délégués de la pastorale des migrants, que ce sont des actions qui vont permettre cette rencontre fraternelle où les gens peuvent se voir sous un même pied d'égalité et cela puisse permettre aussi d'avoir des relations de plus en plus horizontales, moins asymétriques.
Et comment justement, concrètement, à quoi ça peut ressembler ces actions-là? Parce que les personnes par définition qui sont plutôt dans une attitude de peur ou de refus de la rencontre des personnes étrangères, elles vont pas venir à vous spontanément en fait. Donc comment on va les chercher, leur proposer cette rencontre-là qui se fait pas?
Alors, moi, je pense d'abord à des actions type sensibilisation dans les écoles ou grand public où on va expliquer évidemment quels sont les enjeux liés à la migration, mais on va être accompagné par les personnes concernées et qui vont partager leur histoire, leur parcours pour que les gens puissent comprendre quelles sont les causes de la migration et pourquoi les personnes d'origine étrangère sont présentes ici. Également, il y a énormément des temps conviviaux, des repas partagés, des repas du monde qui sont organisés où tout le monde se met ensemble à faire des choses. Moi, je crois que plus nous proposons des activités où elles sont à la portée de tout le monde, cela permet de la rencontre. Par exemple, il y a dans le diocèse de Metz, et ils sont organisés aussi une marche, une randonnée, donc les gens se mettent à papoter, à partager les chemins, à partager la journée. Dans d'autres diocèses, c'est plutôt des repas conviviaux. Dans d'autres diocèses, ça va être une messe du peuple, etc. Également, il y a aussi d'autres diocèses qui vont organiser plus des activités type table ronde, rencontre des grands témoins, etc. Toutes les actions qui permettent de rencontrer les gens concernés, donc des hommes, des femmes, comme vous, comme nous tous, cela aide aussi à tisser des relations et à sortir aussi, comme je disais tout à l'heure, de ses peurs et de ses préjugés. Donc, je lance une invitation, puisque, comme on va célébrer la Journée mondiale du migrant et du réfugié, plusieurs diocèses vont organiser ce type d'activités, dont célébration et suivi des temps conviviaux, table ronde, ciné-débat, animation originale. Allez-y sur le site du Service national Mission et Migration pour voir ce qui se fait dans vos diocèses.
Et même justement, et surtout si vous avez peur ou si vous pensez que ce n'est pas une bonne idée d'accueillir des personnes étrangères, peut-être lancez-vous, allez voir et donnez-vous la possibilité peut-être de changer d'avis, on ne sait pas. Isabelle Richard, à la Fédération d'entraide protestante, comment vous vous positionnez et comment vous prenez en charge cette question-là des personnes qui ont peur face à l'arrivée de personnes étrangères en France?
Alors, je rejoins tout à fait les propos de Marcela. Je pense que fondamentalement, la rencontre est à la base de tout ce qui permet de désamorcer ces peurs. Et la rencontre, elle se joue à tous les niveaux. Elle se joue dans nos familles, à la maison, quand on peut aussi ouvrir sa porte, ou aussi à l'école pour nos enfants, quand ils reviennent de l'école et qu'on constate que la société est effectivement de plus en plus multiculturelle. Dans leur classe, il peut y avoir des enfants qui viennent d'ailleurs, dans nos églises. Et je salue cette journée que vous allez vivre là, le week-end prochain au sein de l'Église catholique. Donc je pense que dans nos églises protestantes, nous avons très souvent ce qu'on appelle une association d'entraide ou un diaconat qui est adossé à la paroisse. Et il y en a un à Nantes. Hein. Là, je suis à Nantes et donc c'est une association dont je suis responsable ici à Nantes aussi. Et nous accueillons, hébergeons, nourrissons, aidons à aller vers l'emploi plus de 1000 personnes migrantes par an. Et donc, ça permet une symbiose avec la paroisse et de faire vivre cette fraternité, de faire tomber les préjugés. Mais au-delà de ces milieux immédiats que nous connaissons bien, j'aurais envie de citer aussi le monde de l'entreprise. De plus en plus, on se rend compte, que ce soit l'entreprise telle qu'on la connaît, mais aussi dans le médico-social, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans des lieux d'action sociale de tout niveau. Les étrangers sont là et heureusement qu'ils sont là et ils apportent leur savoir-faire, leur culture toutes leurs compétences et leurs qualités humaines. Et nous devons leur être reconnaissants parce qu'il y a tellement de choses qui ne fonctionneraient pas dans notre pays si nous n'avions pas ces personnes. Et on le sait aussi pendant la pandémie, combien de personnes exilées, quelquefois dans des situations totalement illégales parce qu'ils ne sont pas embauchés avec un vrai contrat, malgré tout, ont courageusement maintenu leur action pour permettre à nous tous de vivre. Donc, dans les entreprises, mais aussi dans les médias, on l'a cité, sur les réseaux sociaux, soyons tous attentifs et reconnaissons leur place et essayons de changer le regard de toutes les façons possibles parce que tout est question de rencontre et donc de regard.
Vous avez parlé des entreprises, justement, on en parlera plutôt dans la seconde partie de l'émission avec une association qui s'appelle Youn France et qui permet l'intégration professionnelle des personnes étrangères. Allez, pour l'heure, place à la musique, on retrouve notre cher Emmanuel avec sa douce voix et sa belle guitare pour une nouvelle chanson, tout de suite en direct, dont Je pense donc j'agis.
Chara, yo acha ninji shi ake nyeje sivisa mo wirira wihogora. Wanje yo micho misa wirira wihogora kamata ichivuguto chaninji ishi ake nyeje sivisa wirira wihogora Wirira wihogora wihoreze ni tundi ijumana yoga chara chara yoga chaninji ishi ake nyeje sivisa
fini l'émission ah oui. avec vous, Emmanuel, mais il faut qu'on... Bon, il nous reste quelques minutes simplement, c'est pour ça que vous faisiez signe qu'il était temps d'arrêter, mais c'était magnifique. Peut-être quelques mots aussi sur cette chanson, ce qu'elle dit.
Bon, d'abord, je suis désolé, je pense que ça... j'ai chanté pendant longtemps parce que...
Mais c'était très bien.
On aurait pu continuer des heures. Hein.
J'arrivais pas à le couper en morceaux, mais... Après, c'était une chanson qu'on chante souvent pour les enfants. C'est une berceuse. Moi, j'ai appris le chanson depuis mon enfance. Même aujourd'hui, je n'arrivais pas à me souvenir qui a chanté le chanson parce qu'il y a des années. Si on dit à Kinyarwanda, « Ninde undirije umwana », c'est comme si on demande « C'est qui fait pleurer mon enfant ?» Après, c'est le deuxième couplet que j'aimais bien, même si j'ai chanté trois couplets. C'est là, on demande le bébé, si tu veux le lait, je te donnerai. Ne pleurez pas mon enfant, je suis là pour te consoler, pour te protéger. C'est ça qu'on répète plusieurs fois. Après, vraiment, si c'est le soir, ça marche pour les enfants, pour les faire dormir. Mmh. Je pense que ça peut marcher pour les adultes, mais je ne sais pas.
ça nous a bercé aussi, remarque. Je vous lis un court message de Jean-Luc qui nous dit déjà grand merci à Emmanuel pour ses chansons. C'est un auditeur qui vous envoie ce message. Je viens de vivre 5 mois de formation intensive à temps complet et avec des frères et sœurs de 7 pays différents, en particulier africains. Je peux vous dire qu'en finissant cette formation, je ne suis plus le même. Et j'ai même parlé d'une formation parallèle à l'interculturalité avec une ouverture d'esprit et un regard tellement large sur la vie et sur le monde.
Bon, ça passe vraiment trop vite. Ah oui. Il nous reste moins de 2 minutes et on n'a pas parlé du projet de loi asile et immigration qu'a annoncé le président de la République pour début 2023, l'arrivée de ce projet au Parlement. Peut-être en 30 secondes chacune, Marcella Villalobos-Cid et Isabelle Richard, qu'est-ce que vous attendez de ce projet de loi et sur quoi faut vraiment avancer en France aujourd'hui? Isabelle Richard, vraiment en 30 secondes.
Alors, il me semble que s'il y a un point majeur qui est à prendre en compte, c'est celui de l'accès au travail pour les personnes migrantes. Leur donner la possibilité de travailler le plus vite possible quand elles arrivent et du coup ouvrir les droits parce que c'est la condition pour beaucoup d'entre eux pour pouvoir se reconstruire et se projeter dans une nouvelle vie.
On rappelle
et puis
qu'ils
ont envie et besoin.
On rappelle que les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler. Enfin, faudrait rentrer dans le détail, mais en gros, c'est quand même ça. Marcella Villalobos-Cid, pour vous.
Eh bien, pour le moment, nous ne connaissons pas encore les contenus de ce projet de loi, mais je pense que, pareil comme Isabelle, ça serait l'importance d'avoir accès aux droits de travail, mais aussi l'importance d'avoir des politiques d'accueil dignes pour tous. On l'a vu avec la mobilisation de la part du gouvernement pour l'accueil des personnes venant de l'Ukraine, où il y a eu une ouverture des droits sociaux, un accompagnement social, la scolarisation des enfants, l'apprentissage de la langue. Donc, on voit que quand il y a une vraie volonté politique, on peut le faire bien et rapidement. Ça serait bien que ce soit pour toutes les autres personnes d'origine étrangère.
Et que des gens n'aient pas comme Emmanuel à vivre à la rue quand ils arrivent en France. Merci beaucoup à tous les trois. Merci vraiment, Emmanuel, d'être venu avec votre guitare ce matin. Et puis, bonne chance pour la suite et pour les papiers notamment. On a bien compris que c'était capital pour vous.
Merci Emmanuel Abikounze, merci Marcela Villalobosside du service Migration, Mission et Migration de l'Église catholique de France, Isabelle Richard de l'Entraide protestante, merci Anne Kerléo. Dans un instant, on va continuer sur la même lancée. Alors je le disais tout à l'heure, on va parler plus particulièrement de l'intégration à la fois professionnelle et sociale des personnes exilées avec deux exemples d'associations qui agissent en ce sens. On attend toujours vos appels au 04 72 38 20 23 pour apporter vous aussi vos bonnes idées. À tout de suite.